Crocaville est un pays de forêt noire, quelque part au nord-est de la steppe des Kalmouks. Il régnait à l'époque où se passa l'histoire que je vais raconter, un roi chiche, un peu plouc et très riche, un petit tyranneau très feignant du nom de Rapiatchek, qui passait tout son temps à manger. On avait faim. Une faim sans fin dans cet endroit. Les jours étaient sans pain, les pauvres étaient sans voix. Il y faisait très froid, le gigot était rare, pour ne pas dire inexistant, et les cafards remplaçaient bien souvent la viande des rôtis. Les chiens, les chats, passant devant pauvre Mazur, par peur de finir en civet, rasaient les murs. Chacun dans ce pays ne pensait qu'à manger. Le roi, lui, le faisait, et les autres en rêvaient. Voilà pourquoi on entendait, dans la campagne, le chant des affamés.
Qui qu'a vu le coq au vin qu'on gavait dans la cave pour le roi de Cracovie? Qui qu'a vu l'écaille en croûte qu'on lui a cuite au knout avec un bon verre de raki? Notre roi Rapiatchek a toujours de quoi remplir son bec. Notre roi Rapiatchok a toujours de quoi remplir son boc, qui va s'étouffer de gaufres et de bœuf à la broche, de bon goulash, de biche, de flamme cuche et de brioche, de pâté d'anguille, de roche, de fougassé, de tripou, d'andouillette et de fricassou, de dindon farci au chou. C'est pas nous. Ah, mais quand qu'on va bouffer, mais quand qu'on va briefer, mais quand qu'on va baffer. Mais quand viendront les bonnes fées? Nous mangeons la coquille des escargots, la pelure des abricots et les fils des haricots. Nous suçons les épluchures des patates, le jus de la queue des tomates, et nous buvons l'eau des pâtes. Qui qu'a vu la moussaka et les boubliches qui les piroches qui cuisinent au roi de Crocaville? Qui qu'a vu les tzatziki, les chachliki, les ragouts de bouc de notre roi chéri? Notre roi Rapiatchek a toujours de quoi remplir son bec. Notre roi Rapiatchok a toujours de quoi remplir son boc, qui va s'éclater la panse de caviar, de boudin, de galantine, d'autruche, de cake au quetch et de salami, de rutabaga confit, de pintado au pistou, de clafoutis au cachou et de steak de kangourou. C'est pas nous. Mais quand qu'on va bouffer, quand qu'on va gueuletonner, quand qu'on va s'empiffrer. Mais quand viendront les bonnes fées? Nous mangeons les racines des artichauts, les écorces des bouleaux et le bois des noix de coco. Nous suçons les coquilles des bigorneaux, le fond des ragoûts de moineaux et les tibias des gigots.
Un pauvre bûcheron vivait avec sa femme, pas bien loin du château, et livrait chaque mois quelques traîneaux de grumes et de billes de bois, à grand-peine abattus pour qu'on chauffe au palais. Souvent le roi ne payait pas. Son intendant était un mégoteur. Au plaigneur, il disait « Je n'ai pas d'ordre de mon maître. En attendant, repassez dans un mois, nous y verrons plus clair. » Quant au roi, il disait « Voyez mon intendant. » Et qui aurait osé réclamer au seigneur? Le pauvre bûcheron, pour comble de misère, avait eu 7 enfants. L'aîné avait 10 ans. On pourra s'étonner, en 10 ans, 7 enfants. Mais il faut dire ici à l'honneur de la mère qu'elle allait vite à la besogne et n'en faisait pas moins de 2 à chaque fois sans s'épuiser, exception faite du dernier, venu tout seul. Un malingre, un chétif muet comme un tilleul, né pas plus gros qu'un pouce. On le tenait pour Schnock. Et de ce fait, on l'avait appelé Pouchniok. « Ce n'est pas un cadeau, » disait le père. « On dirait qu'il n'a rien dans la théière. » Mais le père se trompait, en prenant pour bêtise le silence par lequel un bon esprit s'aiguise. Si l'enfant parlait peu, il écoutait beaucoup. Mais ses frères le considéraient comme un cacou. Ils le moquaient en lui chantant cette rengaine.
Pouchniok, t'es moche, t'es cloche, t'es camioche, t'as raté le coche, t'as rien dans la caboche. push, nyok, tish, nyok, flic, flic, flac, tu pétoches, t'as rien dans les poches, ni brioche, ni bidoche, ni borsche, ni brioche, ni bidoche. Couche, nyok, t'es moche, t'es cloche, t'es camioche, t'as raté le coche, t'as rien dans la caboche. Ton froc, c'est filoche, t'es galoche, cloque. Ta veste se déloque, on dit que t'es une asbroc. Push, nyok, t'es moche, t'es cloche, t'es camioche, t'as raté le coche, t'as rien dans la caboche.
Cet enfant à nourrir, ça n'est pas mince affaire. Quand on est bûcheron et remplir la soupière était souvent pari impossible à tenir. Il vint une année bien fâcheuse qui fut pire. Un soir, à la veillée, les parents décidèrent de mener leurs enfants dans la forêt pour s'en défaire. « Emmenons-les au bois, dit le père, c'est facile. Et pendant qu'ils feront des fagots de broutilles, nous nous enfuirons en douce, ni vu ni connu. » Ils ne nous verront pas dans les taillis touffus. Touffu, touffu toi-même. Tu n'as donc pas de cœur, disait la mère. De tes enfants, tu vas être le massacreur. En voilà assez, femme. Il fallait pas les faire. Les voir crever de faim, c'est ça que tu préfères. Bref, on s'étripa tard. La mère pleura beaucoup, puis alla se coucher et s'endormit d'un coup. Or, le petit Pouchniok, entendant la querelle, s'était caché discrètement sous l'escabelle du père sans être vu. Il avait tout saisi. Et que faire, pensa-t-il durant toute la nuit. Tôt matin, il alla jusqu'au bord du torrent pour se remplir les poches de petits cailloux blancs, rentra sans dire un mot, et on partit bientôt.
Couper du bois, c'est un drôle de métier. Dans les forêts épaisses, on voit pas plus loin que le bout de son nez. Il faut cogner sans cesse, faut s'activer de la serpe et du merlin. Mais c'est pas ça qui enchante, on gâche de l'huile de coude et bien malin. Qui s'y fera des rentes. C'est pas un boulot pour les gringalets. Faut avoir de l'épaule. Tailler dans les troncs, c'est pas du petit lait. On entend le fer qui miaule, on met les mômes à ramasser le fagot. Y'a que ça qu'ils peuvent bien faire, mais c'est pas ça qui fera gagner le magot qui fait faire des affaires. Les futés, bien futés, qui en fera sa croûte. Faut savoir affûter. Si tu veux pas finir, capoute. C'est pas parce que tu coupes du bois que tu bois. Pas de quoi se payer un verre, pas de quoi s'offrir une petite gueule de bois. Un petit tour à Citerre, parfois t'entends même le loup qui aboie. Ça te fout les chocottes, t'as les guibolles sous l'effet de l'effroi, comme de la cancoyote. Les futés, bien futés, qui en fera sa croûte. Faut savoir affûter, si tu veux pas finir, capote.
Le père se mit donc à tailler dans la futaie, tandis que les gamins ramassaient des rameaux. Quand les parents les virent ainsi bien occupés, ils s'éclipsèrent par un sentier sans dire un mot. Et lorsqu'ils se virent seuls, les pauvres gosses hurlèrent. Ça braillait, ça chignait, ça ne cessait de braire. Les coucous, les hiboux, même les rusés renards étaient apitoyés devant ce traquenard. Pouchniok les laissa épuiser leur lot de larmes. Il attendit que cesse un peu tout ce vacarme. Il savait, lui, comment retourner au logis, car il avait semé sur le chemin ses cailloux blancs. Quand le dernier frangin se fut mouché, il dit « J'ai préparé la route. Suivez-moi seulement. » On le charria. « Demi-portion, gueule de radis, c'est toi le demi-sel qui va mener le rang. » Mais comme il semblait sûr de lui, on le suivit. Il les mena bon port en suivant ses cailloux. Arrivé sur le seuil, il n'osait plus rentrer. Derrière la porte, il s'était mis à écouter. On sentait une forte odeur de barbecue. Or, voilà ce qui s'était produit entre-temps. Quand le père et la mère furent rentrés chez eux, ils trouvèrent sur la table dans le panier aux œufs les 10 écus qu'on leur devait depuis longtemps. Ce trésor, 10 écus, leur redonna l'espoir. « Va-t'en chez le boucher, dit le père affamé à sa femme, et rapporte de quoi nous calmer l'appétit. Nous allons réveiller nos mâchoires qui ont chômé depuis des mois, qu'on se le dise. » Et la mère illico acheta bonne viande, mais 3 fois plus qu'il n'en aurait fallu pour 2. Ils avalèrent un gigantesque pot-au-feu. Quand ils eurent apaisé leur frénésie gourmande, en se curant les dents, voyant ce qui restait, la mère eut des remords et se mit à pleurer. « Et nos pauvres petits, où sont-ils maintenant ? Ils feraient bonne chère de tout ce bon anan. Qui a voulu les perdre ? C'est bien toi, Miroslav !» La mère, plus de 20 fois, lui battit les oreilles tant et si bien que le bonhomme un peu lassé la prit par le chignon et l'ayant menacé, lui demanda cette fois-là de clore son bec. Ce n'est en rien qu'il eût été moins fâché qu'elle, ni qu'il n'eût pas de son geste craint les séquelles, bien au contraire. Mais il ne pouvait supporter qu'elle eût toujours raison de toute éternité. Comme elle continuait à pleurer des fontaines, hurlant comme une truie devant sa mort prochaine, « Où sont mes chérubins, mon Dieu, Saint-Nicolas ?» Les enfants répondirent « Nous voilà, nous voilà !» Elle courut leur ouvrir et en les embrassant, « Mes enfants, mes trésors, que vous m'avez manqué !» leur dit-elle. « Nous avons de quoi faire un banquet !» Ils se mirent à table pour un grand déjeuner. Leur appétit faisait plaisir à voir à leurs parents. Ils parlaient tous ensemble et tout en dévorant de leur peur en forêt comme d'un mauvais rêve. Tout semblait aller mieux, mais ce n'était que trêve. Car la joie dura tant que les écus durèrent. Mais quand l'argent fut dépensé, ils retombèrent dans leur premier chagrin. Les parents de Rechef, voyant que du magot il ne restait bézef, décidèrent pour le coup de les perdre très loin. Pouchniok avait l'oreille fine. Est-il besoin de dire qu'il avait tout entendu du secret ? Et cette fois encore, il comptait s'en tirer à l'aide de cailloux comme la fois dernière. Mais quand il voulut passer la barrière, bloqué. Le père avait fermé à double tour. Que faire ? Il avisa le bout de pain du jour que la mère leur avait donné pour déjeuner. Il se dit qu'il userait des miettes de pain comme il avait fait des cailloux sur le chemin. Il jeûna et serra son quignon dans sa poche. Ils étaient partis matin aux premières cloches. Les parents les menèrent au fin fond le plus noir qu'ils connaissaient de la forêt. C'était lugubre, près du marais Satan, réputé insalubre. Et dès qu'ils y furent, ils s'enfuirent sans un au revoir. Pouchniok ne s'inquiétait pas trop, car il croyait retrouver sa trace aux miettes, mais il n'en voyait plus rien, pas une miette de miettes sur le sol. Les oiseaux lui avaient avalé sa boussole.
Nous les piafs aussi, il faut bien qu'on croûte.
car l'hiver est dur pour la gent ailée. On n'a pas de quoi comme les vaches qui broutent dans les granges à foin à l'abri des gelées. D'où les pierres fossiles arrivent qu'on doute de pouvoir tenir janvier, février. On a les boyaux qui crient la déroute. On va sous la neige chercher la bectée. Bien sûr, on aurait pu y laisser des miettes. Ah, ce petit pouchniok, c'était un peu bête. Mais on peut pas porter toute la misère du monde quand on a l'estotomac qui gronde. Les humains le soir rentrent devant l'âtre se cuire des marrons ou en échanger. Nos autres pois plumes, on sait pas se battre. Pas assez pour se foutre une dégelée. L'hiver, on n'a pas du pâté en boîte. Pour se réchauffer, on n'a que le duvet. Pas de bras zéro, on fonde nos pénates. On a zéro bras, puisqu'on a des ailes. Bien sûr, on aurait pu lui laisser ses miettes. À ce petit pouchniok, c'était un peu bête. Mais devant tous ces gens qui nous paraissent immondes, on fait pas dans le détail, il arrive qu'on confonde. Tous les pierres fossiles, il faut bien qu'on croûte. Pour une fois qu'on a un peu de pain rassis. Pour nous, c'est festin, c'est comme une choucroute. Saint-François revient et on apprécie. Ce miette et chandon trouvé sur sa route. Comment se douter que c'était aussi un marquage au sol pour un jeu de scout. Y a plus de respect pour la bouffe ici. Bien sûr, on aurait pu y laisser des miettes. Ah, ce petit pouchniok, c'était un peu bête. Mais aussi, n'avait qu'à pas gâcher sa miche blonde pour faire des confettis et les semer à la ronde.
Ouais, c'est vrai. Bien qu'on soit des oiseaux, mais on n'est pas des pigeons quand même, hein. On n'a pas tout mélangé. Écoute, bah, il faut bien qu'on croûte, nous aussi. Voilà, c'est ça. C'est la lutte pour la vie, quoi. Je te bouffe, tu me bouffes, et puis voilà, quoi. Je te bouffe, tu me bouffes, je te bouffe, tu me bouffes, je te bouffe, 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 je te bouffe.
Voilà donc Pouchniok et ses frères, bien affligés. Pas le moindre indice pour se diriger. Plus les enfants marchent et plus ils s'égarent. Ils vont le froid au cul et l'œil hagard. La nuit vint et un vent terrible se leva. Un vent de hurlements qui les épouvanta. Un vent peuplé de loups venus pour les manger, grinçant des dents et annonçant tous les dangers. Les malheureux n'osaient parler. Tournaient la tête. Là-dessus vint la pluie qui leur mouillait les os. La terre changeait en boue sous le torrent des eaux. Les faisait se couvrir de crottes et trébucher. Les pauvres mains ne savaient plus où s'accrocher. Pourtant, ayant marché longtemps avec ses frères du côté où ils l'avaient vu cette lumière, il vit ressurgir puis s'évanouir ce sémaphore. À mesure qu'ils passaient vallons et contreforts, ils virent la maison où était la bougie, enfin. Ils frappèrent, une femme aux yeux rougis vint leur ouvrir et demanda ce qu'ils voulaient. La brave femme émue les assit près du feu, où un mouton entier rôtissait à la broche. C'était, leur dit-elle, l'indispensable bidoche pour le repas de l'ogre qu'elle attendait sous peu. Elle pensait pouvoir cacher les pauvres gamins et qu'ils s'en aillent incognito le lendemain. Mais à peine avait-elle dit ces mots qu'à la porte on entendit frapper des coups d'une main forte et la maison trembla tandis qu'il se cachait sous le lit. L'ogre entra d'une voix écorchée. « Le souper est-il prêt ? » hurla-t-il. « Et le vin l'as-tu tiré de frais car j'en ai bien besoin ?» Il écrasa son poing sur la table de chêne. « Femme, écoute ceci pour que tu t'en souviennes. »
Pendant des millénaires, on peut dire qu'on s'usait les nerfs et les dents à croquer des graminées, des bulbes et des racines en bois de chien-dent. Mais Si tu veux engraisser du côté du yo-yo, ne perds pas ton temps. Avec le végétarien, t'as rien, question phosphore et protéines, acides aminés, acides gras. Laisse tomber la salade et les escargots gris. Si tu veux de la cervelle, il te faut payer le prix. Tu es ce que tu manges, il te faut tuer, tuer pour manger. Tu es ce que tu manges, il te faut tuer, tuer pour manger. Alors mâche, 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 mâche ou crève, cacio. Découper à coups de pierre des macs, abaisser l'ABC du rôdeur. Repérer où est tombée la proie grâce aux vautours qui sont autour, à l'odeur. S'assurer qu'il n'y a pas par là, tiré par là, pas un mangeur. Un grand fauvin malabar qui d'un coup dedans vous sépare du bonheur. Puis filer à l'anglaise avec un bout d'onglet, un faux filet de bœuf et l'affaire est réglée. Tu es ce que tu manges, il te faut tuer, tuer pour manger. Tu es ce que tu manges, il te faut tuer, tuer pour manger. Alors mâche, 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 mâche ou crève, gajo. Rien ne vaut un os à moelle pour réchauffer un homme à poil, un homme, un nomade. Je me suis esquinté les mains à fracasser les os comme un mâle, un malade. La bidoche c'est de la carne à côté, les pneus des taxis de la marde, oh, la rigolade. Alors on s'use les molaires en attendant l'arrivée de l'air des grillades. Mâcher ma chérie, passer sa vie à mâcher, je rêve de parmenter du temps du steak haché. Et tu es ce que tu manges, il te faut tuer, tuer pour manger. Tu es ce que tu manges, il te faut tuer, tuer pour manger. Alors mâche, 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 mâche ou crève, gajo. Alors mâche, 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 mâche ou crève, gajo.
L'ogre enleva ses bottes et il se mit à table. Avisa le mouton encore sanguinolent qui ne lui sembla que meilleur. Et indolent, il dit, car l'odorat des ogres est redoutable.
« Femme, je sens bien là que ça sent la chair fraîche. Voici d'un coup mon appétit monté en flèche. »
« Ce doit être ce veau que j'apprête pour vous, que j'ai fait mariner avec des citrons doux. »
« Non, je sens la chair fraîche, te dis-je encore une fois, » reprit-il en lorgnant sa femme de travers. « Et n'essaye pas de me gruger dans mes affaires. »
Puis, se levant de table, au lit il alla droit.
« Ah ah ! Voilà comment tu voulais me tromper, maudite femme. Je ne sais pourquoi je t'épargne. Je devrais te manger. Mais tu es... vieille carne. Eh bien, t'en prends. En tout cas, voilà du bon gibier qui vient fort à propos pour garnir le souper que j'offrirai à trois ogres de mes amis qui doivent me rendre visite ces jours-ci. »
Il les tira dessous le lit, l'un après l'autre, et les pauvres gamins, implorant les apôtres, se mirent à genoux pour demander pardon. Mais il n'y avait dans cet ogre rien de bon.
« Femme, prends ta saucière et prépare un civet, fais-le sur l'heure et n'essaye pas de t'esquiver. »
Il prit son grand couteau, l'affûta sur la pierre. Il avait déjà empoigné l'un des sept frères quand sa femme lui dit, le prenant au gilet, « Mon Dieu, mais que voulez-vous faire à l'heure qu'il est? N'aurez-vous pas assez de temps demain matin ?»«
Tais-toi, la viande terrifiée n'a pas bon goût. »
« Mais, reprit-elle, vous en avez tant devant vous. » « Voyez, voilà un veau, deux moutons et trois daims, plus un demi-cochon qui vous reste d'hier. »«
Ah, tu as raison, » dit l'ogre. « Donne-leur la soupière qu'ils ne maigrissent pas et fais-les se coucher, j'y reviendrai demain. »
Elle, ravie de joie, leur donna à manger, mais eux, saisis d'effroi, ne pouvaient même rien avaler. Quant à l'ogre, il se remit à boire, puis ronfla comme un dogue. Il avait bu bien plus de vin qu'à l'ordinaire et son sommeil retentit de ce chant sanguinaire.
Et nous n'aimons pas le jus de pomme. C'est pas bon pour les reins, c'est pas bon pour les reins. Nous n'aimons que le sang des hommes. C'est meilleur et ça fait du bien. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 1, 2, 3, 4, 5, hop. Mon ami, tu bois bien beaucoup trop. 1, 2, 3, 4, 5, coupe. 1, 2, 3, 4, 5, coupe. Mon ami, tu bois bien beaucoup. Occupe-toi donc de ton verre, car si tu restes sans, comment donc pourras-tu faire pour te remplir de sang? Alors ta tête de serpent, alors ta tête de panthère, ne vivra pas 7 ans, mon ami, ne vivra pas 7 ans. Nous n'aimons pas le jus d'orange, c'est pas bon pour le foie, c'est pas bon pour le foie. Le vin rouge des mauvais anges est le seul qui donne la joie. 1, 2, 3, 4, 5, ouf. 1, 2, 3, 4, 5, ouf. Mon ami tout doux, tu t'étouffes. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, mon ami, tu vomis tes tripes. Tourne plutôt la manivelle. Au fond de ton intestin grêle, 7 ans il va tourner. Alors ta tête d'épervier, alors ta tête de crécelle, tiendra bien sur ses pieds, mon ami, tiendra bien sur ses pieds. Ouais, 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 ouais.
Gravée, 7 filles, 7 petites aux cheveux corbeaux, petites ogresses qui avaient tout un teint fort beau, car elles mangeaient de la chair fraîche comme leur père. Des pisses 3 gouttes, aux petits yeux ronds et gris verts, le nez crochu, la bouche immense et les dents longues, plantées en dents de scie comme celles des congres. Pas encore très méchantes, mais promettant beaucoup, suçant déjà le sang des enfants à leur cou. Ce soir, on les avait fait coucher de bonne heure dans un grand lit carré de la même grandeur que celui où la femme installa les 7 frères, et dans la même chambre. Elles portaient, très fières, des couronnes dorées qui leur saignaient la tête. Quand la femme de l'ogre eut couché les garçons, elle rejoignit au lit son ogre un peu pompette.
Mon ogre à moi n'est ni gros ni gras, il est toujours gris, c'est un ogre ingrat, venu de Hongrie, c'est un ogre aigri, un grognon pas vraiment agréé du syndicat des ogres. Mon ogre à moi, ce grand incongru, n'en fait qu'à son gré, et si je m'ogré, me traite de gru, quand il a un grain, quand il est monté comme un ongre ou comme un onagre. Femme d'ogre bigre, quelle vie de vinaigre, pire que femme de tigre, femme de roi de la pègre, pour quitter ce bougre, faudrait que j'émigre, le jour où j'ai dit ouigre, j'aurais dû me taigre. Mon ogre à moi, quand j'ai dit mon grand, t'auras la peau d'agre, avale donc du green, arrête tes magrets, il me répond ta grelle, touche pas mes gris-gris, c'est mon violon d'ingre. Mon ogre à moi, quand j'y donne du maigre, il me traite de pingre, il me trouve malingre, dit que je le dénigre, ferme ta boîte à greux, je te désintègre. Bref, il monologue. Femme d'ogre bigre, quelle vie de vinaigre, pire que femme de tigre, femme de roi de la pègre, pour quitter ce bougre, faudrait que j'émigre, jour où j'ai du ouigre, j'aurais dû me taigre.
Pouchniok ne dormait pas. Il avait des soupçons et, craignant que l'ivrogne ait eu quelques remords, de ne pas les avoir égorgés le soir même et qu'ils reviennent, il eut l'idée d'un stratagème. Ayant pris les bonnets de ses frères et le sien, il alla doucement faire échange de coiffes et mit les couronnes à ses frères. L'ogre avait soif. Il s'était relevé à 00h.
« Nom d'un chien » grognait-il, « pourquoi donc différer à demain ce qu'on peut aussi bien exécuter la veille ? Voyons ces petits drôles avant qu'ils se réveillent. »
Il prit son grand couteau et monta à tâtons dans la chambre des filles. Pouchniok avait raison. La chose se passa comme il l'avait pensé. L'ogre approcha du lit où dormaient les gamins et le petit trembla quand il sentit la main énorme passant sur sa tête s'avancer. L'ogre avait senti les couronnes d'or et dit
« Ah ! Quelle bourde j'allais faire ! J'ai bien trop bu, pardi !»
Puis il alla au lit des filles et bien certain, en tâtant les bonnets que c'étaient les garçons,
« Les voilà, mes gaillards. Allez, leur compte est bon. »
Il leur trancha la gorge d'un seul coup de surin. Après quoi, satisfait et rêvant au bouillon qu'il se ferait le lendemain avec les gosses pour tenter de calmer son appétit féroce, il retourna goûter les joies du roupillon. Quand le petit Pouchniok entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères, leur dit de s'habiller au plus vite et de le suivre. Il fallait filer sans bruit. Ils traversèrent un jardin très médiocre et sautèrent par-dessus les murailles à la lune. Ils couraient en tremblant sans savoir où aller. Toute la nuit coururent par col et par vallée en priant que leur sort soit de meilleure fortune.
Quand l'ogre s'éveilla, il appela sa femme. « Va-t'en là-haut pour habiller ces petits drôles !»
Il entendait par là faire un fond de casserole, en les frottant à l'ail, au thym, à la cinname, et l'idée du ragoût excitait sa salive, mais la brave femme, qui était un peu naïve, imagina chez lui un accès de bonté. La plus terrible surprise, quand elle fut montée, l'attendait dans la chambre où dormaient les enfants, ses 7 filles, égorgées et nageant dans le sang. Elle commença par s'évanouir. Que faire de mieux? C'est un bon expédient quand le monde est odieux.
L'ogre s'impatientait, trouvant sa femme longue. Que fait-elle? Elle bavasse? Elle joue au mahjong?
Il monta pour l'aider, mais fut abasourdi à son tour en voyant ce qui s'était ourdi à son insu.
« Bandit! Voyou! Voleur schnappant! Ils vont me le payer, ces morveux, par Satan !» Il jeta un pot d'eau sur sa femme et en rage, quand elle fut revenue, lui dit « Va au garage, apprêtez ma bécane, un plein de gasoline, je m'en vais illico ratisser les collines avec la moto de cette lieue. D'ici ce soir, j'aurai passé ces petits cons sous la hachoire. »
Car l'ogre possédait cet engin démoniaque qu'il chevauchait parfois imbibé de cognac. C'était son péché mignon, aimant la vitesse que cette hurlante harlée qui faisait des prouesses, grâce à laquelle aussi il rattrapait ses proies, dont on suivait le noir panache dans le froid. C'était en ce temps-là un signe de puissance, car il était en tous les sens gourmand d'essence. Il battit la campagne à tous les horizons à grande allure, l'engin chauffait comme un tison. Il eut au fait de voir la trace des petits. Ils arrivaient tout juste en vue de leur logis. Eux, de loin, observaient de montagne en montagne ce monstre bondissant qui sautait par les cols, traversait les rivières, comme de simples rigoles caracolant dans les ravines et dans les fagnes. Le petit Pouchniok, avisant un rocher creux, il y fit cacher ses frères et lui avec eux. Or, l'ogre aussi, d'un coup, s'était senti très las. La moto de cette lieue fatigue fort son homme. Il cherchait un endroit pour faire un petit somme et il faut croire qu'ici un esprit s'en mêla, choisit précisément alors le grand rocher dans lequel les petits fuyards s'étaient cachés. L'ogre épuisé s'allongea, bientôt s'endormit et se mit à ronfler si effroyablement qu'on eût dit le pays saisi de tremblements. De la terre, on voyait s'échapper les fourmis en colonnes et ce rugissement terrifiait les gamins tout autant que le couteau d'acier avec lequel ils voulaient leur couper la gorge. Mais Pouchniok se disait au fond, ce n'est qu'un orgue qui joue le crépuscule d'un géant abruti. Il eut moins peur et dit aux frères, « Filez d'ici, rejoignez la maison, et sans vous mettre en peine de moi, je viendrai à bout du croque-mitaine. » Ils rentrèrent chez eux en suivant son conseil. Pouchniok, alors, approche l'ogre qui sommeille, sans le moindre bruit, retenant son souffle et à petits pas. Se réveillera-t-il? Se réveillera-t-il pas? Il observait les mouvements lents de sa panse. L'engin à ses côtés lui paraissait immense, mais cette moto de cet lieu était magique. Elle avait don de s'adapter à l'identique suivant la taille et la carrure du chauffeur. Il posa sa main sur le guidon et... bonheur! Celui-ci se fit souple et léger comme une plume. Pouchniok enfourche la machine et il allume. Le voilà parti comme un boulet de canon, sur sa monture pétaradant comme un dragon. On entendait l'écho partout dans la montagne. Petit Pouchniok se serait cru le roi d'Espagne. Il alla droit, dit-on, à la maison de l'ogre. Sa famille pleurait à grands flots son sort médiocre. « Votre mari, dit-il, court un très grand danger. Des voleurs l'ont saisi et jurent de le tuer s'il ne leur donne pas son or et son argent de suite. J'ai vu le couteau sous sa gorge. Mais, m'ayant aperçu, il m'a prié par Saint-Georges d'aller vous avertir de l'état où il est et que vous me donniez jusqu'au dernier billet sans quoi ces gens le tueront sans miséricorde. Afin que vous me croyiez, il m'a donné ordre de venir jusqu'à vous comme la chose presse au moyen de cette machine enchanteresse. » La bonne femme, fort effrayée, lui donna tout, car quoique son mari fît d'enfance ses ragoûts, elle l'aimait, montrant qu'amour a ses raisons, qui pour toujours tiennent certains dans sa prison. Le petit Pouchniok rentra au logis chargé, riche d'un trésor de fortune à partager, et tout un chacun peut imaginer la joie qu'on eut de le revoir. Puis il offrit un toit à chacun de ses frères qui ne le moquaient plus, et sûr qu'on peut se taire sans être un ingénu. Mais l'ogre, direz-vous, qu'en est-il advenu? La fin de son histoire nous demeure inconnue. Certains disent que de dépit, il s'était retiré dans un couvent, mais eut tôt fait de dévorer tous les prieurs. D'autres que sa femme tenta longtemps de lui faire passer le goût de la viande, et qu'ayant enfin accédé à sa demande, il avait intégré un phalanstère végétarien. Cette piste est fantaisiste et ne mène à rien. S'il m'est permis ici de donner un indice, je dirais seulement que les nuits de solstice, on entend résonner dans les bois d'Astokhav un chant barbare aux accents typiques crocaves. Et qui d'autre que lui pourrait bien le chanter ?